Vous êtes sur RTL.
18h. Et on vous retrouve, Stéphane Carpentier, RTL Soir.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'info. Bienvenue à vous tous. À la une, le fiasco d'une réunion annoncée comme cruciale à Matignon. Il n'était que 2 gilets jaunes cet après-midi dans le bureau du Premier ministre. Le premier a quitté les lieux car Édouard Philippe a refusé que le face-à-face soit filmé. Le second, non identifié, est entré par une porte dérobée pour fuir les caméras. Mais il y a eu un débat utile à en croire Édouard Philippe. Drôle d'ambiance à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Dans RTL Soir, vous allez tout savoir, tout comprendre d'une situation au point mort. Le ministre de la Transition écologique, M. Durugy, était dans le bureau de Matignon. Il sera sur RTL à 18h20. Accepte-t-il le mot fiasco? Parle-t-il d'avancer? Ses réponses en direct. RTL Soir, première édition avec vous. Céline Landreau, bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Et les autres titres.
Dans le même temps, les Gilets jaunes, les Champs-Élysées se préparent à l'acte 3 des Gilets jaunes demain au cœur de la capitale. L'avenue est placé sous haute surveillance par crainte de nouveaux débordements. Un lycéen interpellé dans son établissement avec 2 pistolets. Ça s'est passé hier à Argenteuil dans le Val d'Oise. RTL vous le révélait. L'adolescent aurait voulu faire l'intéressant. La direction du lycée a tout fait pour minimiser l'incident. Un face-à-face de quelques minutes dans un hall. Emmanuel Macron a rencontré Mohamed Ben Salman aujourd'hui, juste avant le début du G20 en Argentine. Et puis June, tout juste née, déjà menacée. Air France envisagerait de faire mais sa filiale low cost. La bourse de Paris termine quasi stable ce soir. -0,05%. Le CAC 40 s'établit à 5003 points.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Indemniser de la même façon tous les salariés en arrêt maladie grâce à un nom des nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque de la marine française. C'est ultra moderne, ultra sécurisé. On vous emmènera à Cherbourg. À 18h30, Olivier Mazerolle. Ce soir, Emmanuel Macron, les gilets jaunes et les critiques de François Hollande. À 18h35, le papa de Pascal Brutal, le dessinateur de l'Arabe du futur, notre invité, Riyad Satouf, au cœur d'une très belle exposition à Paris, sa vie, ses œuvres, le phénomène Satouf, c'est dans RTL Soir. À 19h15, bien sûr, on refera le monde comme tous les soirs de la semaine. La météo, bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Bon, demain, pluie et douceur.
Ça continue, on a à peu près une perturbation par jour en ce moment. Celle d'aujourd'hui a donné beaucoup de pluie dans le sud-est et la suivante arrive par la côte atlantique cette nuit. Elle donnera de la pluie et encore des pluies soutenues demain sur toute la moitié ouest du pays, sur le nord dans l'après-midi, sur le centre, l'Île-de-France. Et cette perturbation va s'accompagner de fortes rafales de vent jusqu'à 70 km/h en pointe. Ce sera un petit peu plus calme dans l'est avec un ciel lumineux entre les Alpes et la Méditerranée. Puis les températures toujours très douces, 3 à 10 degrés pour demain matin et 8 à 18 dans l'après-midi. 18 de maximum à Ajaccio, 10 degrés à Paris et Bordeaux.
Merci Patricia.
RTL Soir.
Après-midi surréaliste donc à Matignon. Céline, la réunion avec les Gilets jaunes a viré au fiasco.
Ils ne sont que 2 à s'être présentés et l'un d'entre eux n'est resté que quelques minutes face à Édouard Philippe. Bonsoir Dominique Tenza.
Bonsoir.
Le dialogue qu'espérait l'exécutif n'a pas eu lieu.
Ah, on était très loin effectivement du scénario envisagé par Matignon. On a cru, pour ne rien vous cacher, d'après-midi, que les Gilets jaunes avaient carrément posé un lapin à Édouard Philippe. Il fallait voir la mine consternée des conseillers qui ne comprenaient pas grand-chose. Et puis, le premier représentant est finalement arrivé avec une demi-heure de retard. Jason Herbert, il demande à ce que l'échange soit filmé. Refus du Premier ministre, aussitôt arrivé, aussitôt parti.
Il n'y a pas eu de discussion engagée pour ma part parce que les caméras ne pouvaient pas filmer et retransmettre ça de façon à ce que les 65 millions de Français puissent assister à cet échange qui concerne tout le monde.
Un autre gilet jaune venu discuter est passé lui par une porte dérobée, ne souhaitant pas être filmé, reconnu par peur des menaces. Ce qui pourrait expliquer que sur les 8 porte-parole invités, seulement 2, dont Jason, aient fait le déplacement.
Pour être très honnête, aujourd'hui nous ne sommes que 2 car nous avons tous reçu d'énormes pressions à 99% de la part d'autres gilets jaunes qui ne souhaitent pas qu'on avance.
Le résultat de tout cela, c'est quand même un spectacle assez navrant. Des gilets jaunes qui se tirent dans les pattes, un dialogue qui tourne au fiasco et un Premier ministre obligé de sauver la face.
Ce débat a été intéressant. La porte de Matignon restera toujours ouverte. Nous pourrons continuer ce dialogue. J'espère qu'il pourra continuer à se tenir. Et je pense que c'était important qu'il ait lieu.
Une nouvelle rencontre, cette fois un peu plus large, espère-t-on, pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.
Dominique Tenza à Matignon pour RTL et donc François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, notre invité dans quelques minutes. Il était dans le bureau de Matignon cet après-midi. Les autorités qui vont devoir maintenant gérer l'acte 3 et la mobilisation attendue demain sur les Champs-Élysées.
Les Gilets jaunes appellent en effet à investir pour un troisième week-end consécutif l'avenue parisienne, mais après les images de chaos du week-end dernier, le quartier sera davantage sécurisé. Seuls les piétons seront autorisés sur l'avenue après avoir été fouillés. Les forces de l'ordre seront mobilisées en nombre. Marie Mollet, vous êtes ce soir sur les Champs-Élysées où tout a déjà été déblayé pour limiter au maximum les dégâts.
Oui, les plots en béton, les barrières de chantier, les grilles au pied des arbres, tout a été déblayé. En fait, tout ce qui samedi dernier avait servi à dresser des barricades ou à lancer des projectiles. Par endroits, du béton encore chaud a été coulé sur les pavés qui pourraient être déchaussés. Et puis, les vitrines des magasins disparaissent derrière des morceaux de tôle, des palissades vissées à la va-vite. Les commerçants rangent les jardinières, les parasols et parfois démontent leurs terrasses, comme au Bistrot 25. Rudy en est le chef cuisinier.
On va être obligé de mettre tous les mobiliers dans un camion, partir en banlieue pour pouvoir les ramener lundi matin. Ce qui nous permettra de pouvoir rester ouvert malgré tout. Il y a des employés derrière, il y a un business à tenir, il y a des loyers à payer. Donc je pense que l'ouverture est obligatoire et nécessaire. Enfin, on va prier pour ne pas avoir de dégâts sur les bâches et la structure. Parce que je pense qu'on les a laissés un peu faire la semaine dernière et que personne n'y a cru, et encore moins la préfecture de police.
Alors demain, un filtrage sera installé dans toutes les rues adjacentes. Des camions de police en travers de la route et des policiers de part et d'autre pour contrôler les sacs. Toutes les personnes porteuses d'une arme pourront être interpellées. Les forces de l'ordre qui s'attendent à ce que des militants de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche se glissent parmi la foule pour renouveler les scènes de violence de samedi dernier.
Marie Mollet en direct des Champs-Élysées pour RTL.
Aller à Paris ou pas, c'est d'ailleurs la grande question pour beaucoup de manifestants.
Mais quel est le meilleur moyen pour se faire entendre? La question se pose en région et notamment dans la ville du Blanc. Toute la journée, RTL vous a fait vivre la mobilisation des Gilets jaunes dans cette cité de 6600 habitants à l'ouest de Poitiers, chez ces Français qui se sentent abandonnés, déclassés et qui seront mobilisés demain, chacun à leur manière. Julien Fautra.
Oui, deux stratégies, mais l'objectif, lui, reste le même. Bloquer, se faire entendre. Thibault a une volonté de faire. Les débordements sur les Champs-Élysées samedi dernier ne l'ont pas refroidi. Il fera à nouveau le déplacement 4 heures de route ce soir tard.
On va arriver, je pense, sur les coups d'une heure ou deux heures du matin, je pense à peu près. Et on va dormir la nuit dans la voiture. Et puis après, le lendemain matin, on se réveillera comme on pourra. Puis hop, on filera rejoindre les manifestants. C'est là-bas qu'on se fera le plus entendre. Montrer qu'on est là et que si on peut remplir Paris, ça serait idéal.
Plusieurs points de rassemblement sont prévus ici au Blanc. Pour Christiane, 732 euros de retraite, 62 ans. Il faut que les Gilets jaunes se montrent partout en France.
Donc on va se regrouper demain.
Alors qu'il sera sur les Champs-Élysées demain pour accompagner ce mouvement, cette révolte populaire. Une manifestation inédite, selon lui, et qui pourrait bien renverser le pouvoir en place.
C'est du jamais vu. C'est une sorte de mai 68 larvé, perlé, qui a lieu sous nos yeux, avec des formes d'expression radicalement nouvelles, avec par exemple une présence féminine qui est sans précédent. Et moi, je mets en garde les autorités. Je suis un connaisseur de l'histoire. Quand les femmes sont en première ligne, tout est perdu pour le pouvoir en place. Et je crois que si le président de la République ou qui que ce soit croit qu'il va s'en sortir avec des formules générales, il se trompe lourdement sur ce qui se passe dans les esprits.
Les mots de Jean-Luc Mélenchon, propos recueillis par le micro RTL d'Hugo Hamelin. Dans un instant, la suite et un adolescent interpellé avec deux pistolets.
Consulat saoudien d'Istanbul. Pas de rencontre bilatérale entre les deux hommes, mais un entretien pour le moins rapide avant le début des réunions, Christophe Decroix.
Oui, une rencontre sur le mode informel de moins de 5 minutes dans le hall d'accueil du G20. À en croire l'Elysée, Emmanuel Macron a eu un échange très franc et très ferme avec le prince héritier. Il souhaite en particulier qu'un groupe d'experts internationaux puisse être associé à l'enquête sur l'assassinat de Khashoggi et réclame une solution politique pour le Yémen. Sur les images de cette rencontre diffusée par l'Arabie Saoudite, le prince héritier n'a pas l'air du tout gêné par les propos du président français. Il est détendu, souriant, voire riant et disant même « thank you » à un Emmanuel Macron qui cherche à montrer un visage ferme, souligne l'Elysée qui ne veut surtout pas donner une image de complaisance. Côté saoudien, où le but est de réussir à faire revenir MBS dans le giron de la communauté internationale, la version est très différente. Si tous les chefs d'État viennent voir le prince, c'est parce qu'il a une bonne vision de l'avenir, nous assure un tweet saoudien.
Stop. Christophe Decroix, l'envoyé spécial de RTL en Argentine pour le G20.
La garde à vue de Carlos Ghosn a été prolongée aujourd'hui jusqu'au 10 décembre au Japon. Le puissant patron a été révoqué de Nissan et Mitsubishi Motors, mais reste pour l'instant PDG de Renault. Il est soupçonné de dissimulation de revenus.
Et puis un an après son lancement, June pourrait s'arrêter. La filiale d'Air France ne séduit pas ses dirigeants.
Ben Smith, le nouveau patron d'Air France KLM, n'a pas l'air convaincu par le concept de la compagnie lancé par son prédécesseur Jean-Marc Janaillac. June oscillait entre le low cost et la...
Au lieu de développer une filiale qui fait de l'ombre à sa maison mère, le sujet est sur la table, une réflexion est engagée, mais pour l'instant, rien n'a été tranché. June continue à voler, sous tension effectivement, puisque plusieurs syndicats d'hôtesses et stewards menacent de déposer un préavis de grève si leurs conditions de travail ne s'améliorent pas. Mais les prochaines ouvertures de lignes sous la marque June vers Stockholm, Madrid, Prague et Manchester sont maintenues dans l'attente d'une décision de la direction sur l'avenir de la compagnie.
Merci Éric Vanier, spécialiste transport pour RTL.
Et le journal de RTL Soir avec Céline Landreau. Toute l'actualité quand vous le souhaitez sur rtl.fr. La question qui éclaire l'actualité. Bonsoir Martial Youn.
Bonsoir.
Une mission va proposer un forfait unique d'indemnisation pour les arrêts maladie. Qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui ?
Bien, actuellement, si vous tombez malade ou si vous avez un accident qui vous empêche de travailler, la moitié de votre salaire brut, jusqu'à 2700 euros à peu près, est prise en charge par l'assurance maladie. Mais pendant les 30 premiers jours d'arrêt, bien, l'employeur compense le reste du salaire et on touche 90% de son salaire brut. Dans le privé, l'indemnisation débute au quatrième jour d'arrêt. Les trois premiers sont à la charge du malade, c'est ce qu'on appelle les jours de carence. Souvent, dans les grandes entreprises, c'est l'employeur qui compense via les compagnies de prévoyance, mais pas souvent, en revanche, dans les PME. Et au-delà de 30 jours d'arrêt, eh bien là, l'indemnisation devient dégressive.
Alors Martial, qu'est-ce que la proposition qui est faite au gouvernement pourrait changer ?
Deux choses. D'abord, on ne se baserait plus sur le salaire réel, mais on verserait un forfait unique, 0,9 SMIC. C'est ce qui a été évoqué, donc en gros 1350 euros. Ce sera sans doute avantageux pour les bas salaires, mais en revanche, la plupart des personnes arrêtées vont y perdre. Mais il ne faut pas oublier que le but de cette proposition, c'est de faire des économies. Et puis ensuite, les auteurs propose aussi d'instaurer un seul jour de carence au lieu de trois pour le secteur privé, comme dans la fonction publique. Mais ce sera un jour à la charge du malade. Il ne pourra plus être pris en charge par l'employeur.
La question qui éclaire l'actualité, signée ce soir, Martial Youn. Vous restez bien avec nous. On revient dans un instant sur le rendez-vous manqué de l'après-midi à Matignon. Deux gilets jaunes seulement dans le bureau des...